Et donc nous sommes toujours sur une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la Révolution française entre lutte de genre, de classe et décoloniale. Et donc nous sommes dans la troisième partie de notre longue émission consacrée à ce long événement passionnant qu'est la Révolution française. Et nous allons parler, après avoir parlé des luttes de classe et de genre, des luttes de race, entre guillemets, race étant entendue ici comme une construction sociale, mais qui est matériellement effective, comme le disait Colette Guillaumin. Donc une partie qui s'organise un peu, qui est un peu comme fil conducteur, disons l'ouvrage de C.L.R. James, Les Jacobins Noirs, Toussaint Louverture et la Révolution de Saint-Domingue, paru aux éditions Amsterdam en 2017, qui est un grand classique hein, sur la Révolution de Saint-Domingue, et donc qui est fait par C.L.R. James, qui est un marxiste noir. Il y a une très bonne biographie de lui d'ailleurs par Mathieu Renaud, et qui en gros va essayer de lier des questions de classe, puisque lui-même était trotskiste, et puis il va progressivement évoluer vers des positions plus anti-autoritaires, vers ce qu'on appelle le conseillisme, communisme de conseil, et d'autre part, lier des questions de race, et donc notamment des questions décoloniales, anti-esclavagistes, anti-racistes, et pas simplement les additionnant, mais en pensant ces problèmes ensemble, ce qu'il arrive à faire de manière assez remarquable dans ce livre Les Jacobins Noirs. Et donc, pour parler de ce livre, nous sommes toujours avec notre invitée, Caroline Fayolle, qui va donc nous éclairer un petit peu sur le contexte et aussi un peu les apports historiographiques, ses propres recherches, parce que nous nous sommes personnellement contentés uniquement de lire ce livre qui est passionnant. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu pour planter le décor sur la société de Saint-Domingue juste avant la Révolution?
Saint-Domingue fait partie des colonies sucrières hein, de la France, avec aux Antilles, comme par exemple la Guadeloupe. C'est bien sûr aujourd'hui, Saint-Domingue porte le nom d'Haïti, hein, c'est le nom qu'elle a pris à son indépendance en 1804. Donc c'est une colonie sucrière où donc il y a l'usage de populations esclaves. On va avoir une population notamment de blancs colons qui domine la société de Saint-Domingue. Il y a toute une partie aussi de ce qu'on appelle les Noirs libres, qui eux peuvent être donc d'anciens des métis ou des descendants d'esclaves, mais qui ont été affranchis et qui ont pu, certains d'entre eux d'ailleurs, acquérir des propriétés, soit parce que par exemple leur père par exemple était propriétaire d'esclaves et propriétaire terrien et décide d'affranchir la mère qui était une esclave par exemple et son fils et lui donner des terres. Donc c'est comme ça que certains noirs libres ont pu avoir des terres. Certains d'ailleurs ont pu parmi ces noirs libres être propriétaires d'esclaves aussi, hein, il ne faut pas le nier, même si bien sûr c'est avant tout les blancs colons qui étaient propriétaires des esclaves. Et puis donc une population servile largement majoritaire, noire, qui faisait avant tout ce travail dans les plantations mais aussi qui avait ce rôle de domestique notamment dans les grandes habitations de planteurs. Cette division est importante puisqu'il va très vite se former ce qu'on appelle un lobby colonial pendant la Révolution française, qui est mené par les blancs qui dominent dans les colonies et qui vont essayer de défendre les intérêts coloniaux au sein de l'Assemblée nationale. Donc le lobby des colons d'une part, il va aussi avoir toute une part des noirs libres qui vont tenter d'obtenir des droits de citoyens. Et ils vont les obtenir d'ailleurs en 1791, pas donc tous les hommes de couleur, hein, mais les hommes de couleur libres. Donc on va avoir dans la métropole aussi la présence de gens représentant du lobby colonial et des gens aussi représentant des noirs libres de Saint-Domingue. Voilà un petit peu par rapport à ce rapport de force. Et puis ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a en métropole toujours la présence d'un mouvement abolitionniste qui est porté avant tout par une société qui s'appelle la Société des Amis des Noirs, qui existait avant la Révolution, hein, dans laquelle on va trouver des figures comme Brissot, comme Condorcet, comme par la suite Olympe de Gouges, justement, qui vont appeler à l'abolition de l'esclavage. Alors l'abolition de la traite, d'une part, et puis l'abolition de l'esclavage. Et avec des débats qui les animent sur est-ce qu'il faut une abolition qu'on appelle gradualiste, c'est-à-dire par étapes. On n'abolit pas d'un coup l'esclavage, on le fait par étapes, on prépare la population à la liberté, comme il disait. Et d'autres qui estimaient au contraire que l'abolition de l'esclavage devait être faite de manière immédiate. Donc des débats aussi parmi les abolitionnistes.
Après, on peut rajouter à ça avec James, d'une part, le fait que le statut de Saint-Domingue s'ancre dans une rivalité franco-anglaise.
Oui, tout à fait.
Il en parle beaucoup d'ailleurs, il considère considère que les Anglais, finalement, sont des acteurs très importants et que finalement, le fait que dans les années 1780, il y a une espèce de tournant un peu abolitionniste du gouvernement anglais, hein, bon, finalement, l'abolition n'interviendra qu'en dans les années 1830, hein, mais qu'il y a une espèce de soi-disant de montée de cette question de l'abolition de la traite, pas de l'esclavage, hein, juste de la traite. Et James montre bien, je pense, que l'adoption, disons, de ces idées d'abolition de la traite dans les cercles gouvernementaux britanniques est principalement liée au fait que c'est Saint-Domingue qui est la plus riche île esclavagiste, qu'elle procure 11 millions de livres à la France, alors que la Grande-Bretagne ne tire que 5 millions de livres de toutes les Antilles, et que du coup, finalement, les îles britanniques pourraient, disons, reproduire leur population d'esclaves, alors que Saint-Domingue a vraiment besoin de l'afflux de la traite, et que donc, du coup, finalement, abolir la traite, ce serait un moyen d'asphyxier économiquement Saint-Domingue. Donc, je pense que ça, c'est un truc qui est assez intéressant. On verra que les Anglais joueront un rôle aussi très important.
Très important, ouais, pour l'abolition de l'esclavage en tant que tel. Mais il y a aussi le rôle des Espagnols.
Et les Espagnols, voilà,
donc c'est clairement un enjeu de rivalité européenne, car effectivement, c'est un enjeu de richesse considérable, Saint-Domingue.
Et après, l'autre point que met en avant C.L.R. James, son analyse finalement est assez proche de celle de Guérin, d'ailleurs même de celle de la Révolution française en France métropolitaine. À Saint-Domingue, il analyse aussi les fractions un peu de la race, du coup, des Blancs. Entre des Blancs royalistes, plutôt attachés à l'administration monarchiste, qui sont souvent, bon voilà, l'administration royale, les fonctionnaires royaux, et puis aussi une partie des planteurs, pas tous, parce qu'il y en a d'autres, et d'autres planteurs qui sont plutôt républicains, pour des raisons diverses et variées, et surtout les petits Blancs, les Blancs qui ne sont pas propriétaires d'esclaves, qui eux sont très républicains, et qui veulent s'affranchir de la tutelle, en fait, monarchique sur l'île. Et ce que montre C.L.R. James, c'est que finalement, dans cette rivalité entre Blancs, il va y avoir des espaces qui vont justement permettre d'abord aux Noirs libres de s'insérer dans le jeu en jouant les uns contre les autres. Donc, en l'occurrence, les Noirs libres, ça peut nous paraître étrange, mais vont s'allier avec les monarchistes, en fait. Et ensuite, il va y avoir les esclaves qui vont arriver dans le jeu politique à partir de 1791 avec une gigantesque insurrection. Quoi.
Oui, tout à fait. Et puis, ce qu'on peut aussi peut-être rappeler en termes de contexte, c'est ce qu'ont bien montré les historiens de Saint-Domingue, c'est que il y a aussi une fabrique de la race qui a lieu dans les années, la moitié du XVIIIe siècle, la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ça a été un moment où on a commencé à subdiviser les appartenances de sang, avec l'idée que si on a un quart de sang, on avait un quarteron, un tiers, etc. Et certains qui avaient été considérés comme blanchis, parce qu'ils avaient eu des ancêtres noirs, mais ils étaient acceptés comme blancs dans la société de Saint-Domingue. Avec ces nouvelles lois qui se mettaient en place sur les origines des habitants de Saint-Domingue, se retrouvaient tout d'un coup reclassés comme noirs, alors qu'ils étaient perçus comme blancs. Et donc, c'est aussi intéressant pour se rendre compte une nouvelle fois de l'historicisation de la race aussi, qui, loin d'aller de soi, de qu'est-ce qui était noir, qu'est-ce qui était blanc, était aussi fabriqué par des mesures législatives et qui faisaient fluctuer ce qu'on appelait la ligne de couleur.
Oui, d'ailleurs, là-dessus, c'est intéressant parce qu'on voit comment est-ce que le racisme et la race sont toujours obligés de se reconfigurer pour remettre de l'ordre dans ce qu'on peut appeler des troubles à la race, notamment le phénomène du métissage. C'est parce ça. Que c'est typiquement ce genre de mesure, c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a plus uniquement des blancs et des noirs, mais qu'il y a des individus qui se trouvent entre les deux, il y a besoin du coup de remettre une législation comme celle que tu as évoquée. Et justement, ça crée une espèce de troisième race qui va avoir des intérêts distincts des deux autres et qui va jouer d'ailleurs dans la Révolution un rôle vraiment distinct. Un peu à la manière d'une classe. Donc, c'est là où on voit finalement que, bon, évidemment, la race et la classe ne sont pas la même chose, mais que dans les deux cas, ce sont vraiment des entités qui sont définies socialement. Quoi.
C'est ça, exactement, et qui bougent et qui sont sans cesse redéfinies selon les rapports de force. Et d'autant plus que ces lois étaient là pour protéger une blanchité. C'était aussi parce que les Blancs se sentaient étaient en minorité numérique, qu'il y a aussi une volonté pour protéger son pouvoir et de l'arrivée de ces Noirs libres qui commençaient à prendre de la puissance à Saint-Domingue, la puissance économique, etc. Et bien du coup, de réaffirmer des lignes de couleur, ça permettait de protéger les intérêts économiques de l'élite supérieure. Donc c'est la classe qui fabrique la race aussi, comme la race fabrique de la classe. Enfin bref, là on est vraiment dans une logique plus où c'est pas seulement ajouter les rapports de domination, mais montrer comment ils s'intéressent s'interfèrent, ils interagissent et se nourrissent les uns les autres.
Oui, oui, ils se co-construisent.
Se co-construisent, voilà, exactement. Ouais.
Et justement, là-dessus, on voit que la révolution de Saint-Domingue est un phénomène complexe où il y a des divisions politiques, des divisions raciales, des divisions de classe qui s'entrecroisent. Et tout ça dans un contexte de rivalité géopolitique qui fait que finalement, au début, Toussaint Louverture, qui est celui qui va incarner d'une certaine manière la révolution haïtienne, même si ce n'est pas lui qui va conduire à l'indépendance d'Haïti en 1804, au début va se retrouver dans le camp royaliste, puis va se retrouver dans le camp des Espagnols, puis va se re-rallier à la République. On voit qu'en fait, à chaque fois, son agenda, entre guillemets, c'est l'abolition de l'esclavage, et toute son armée d'esclaves, c'est aussi leur but, c'est de se libérer définitivement de l'esclavage, c'est leur préoccupation permanente. Et pour ce faire, il va s'allier politiquement à différents acteurs blancs au fur et à mesure des opportunités, des revirements. Peut-être pour revenir un peu chronologiquement là-dessus, parce qu'en fait, si on lit bien ce livre qui est passionnant, c'est quand même une histoire assez compliquée. Donc en 1791, il y a cette gigantesque insurrection d'esclaves. C'est vraiment une insurrection violente, hein, vraiment. En même temps, il fallait pas s'attendre à grand chose d'autre, étant donné ce qu'a été l'esclavage, qui a été, comme le dit d'ailleurs C.L.R. James, qui est assez intéressant là-dessus, parce qu'il cache pas cette violence. Il dit pas c'est merveilleux, il n'exalte pas non plus, mais il dit bon, faut voir aussi la violence qui avait été infligée aux esclaves avant, quoi, depuis des générations.
Bien sûr.
Donc voilà. Mais enfin, toujours est-il qu'il y a cette espèce de violence presque expiatoire, libératrice, qui va donc faire émerger un nouvel acteur politique, qui va être donc ces esclaves en révolte. Et en même temps, qui va complètement bouleverser le petit jeu politique entre blancs royalistes, ce que C.L.R. James appelle les mulâtres, donc qui sont les noirs libres, et en même temps les blancs révolutionnaires. Comment est-ce que du coup le jeu politique va se reconfigurer un petit peu avec cette insurrection
Alors oui, déjà ce qu'il faut dire, c'est que cette insurrection, elle va jouer un rôle moteur dans la dynamique qui va mener à l'abolition de l'esclavage. Et c'est vrai que longtemps a été dit en France métropolitaine que finalement la Révolution française avait aboli l'esclavage, etc. Oui, elles ont aboli l'esclavage, mais pas uniquement au nom des principes de déclaration des droits de l'homme et citoyen. C'est bien plus complexe que ça, et ça se joue notamment sous la pression à nouveau d'en bas, et notamment de cette révolte, cette insurrection d'esclaves. En fait, il y aura même plusieurs insurrections entre 1791 et 1793. Hein. Là où ça va transformer aussi les rapports de force, c'est ce rôle aussi à la question avec l'Angleterre. C'est-à-dire que les esclaves qui commencent à se révolter, ils peuvent tout à fait passer du coup du côté de l'ennemi anglais. C'est une des grandes craintes de la France, c'est que, et d'ailleurs les Anglais essayent d'armer des esclaves français pour l'idée, avec nous, vous aurez la liberté, et donc l'île va basculer du côté anglais. Donc, face à ce risque-là, les révolutionnaires, alors qu'il y a beaucoup qui réclamaient la répression de ces insurrections de manière violente, etc., du lobby colonial dont je parlais tout à l'heure, et bien aussi il y a eu cette idée, il faut surtout faire en sorte que ils restent avec la France, donc il faut quand même leur accorder des choses pour qu'ils ne basculent pas avec l'Angleterre. Donc on voit bien que c'est à la fois l'interaction entre les révoltes d'esclaves en tant que telles et le conflit armé avec l'Angleterre qui va modifier en fait le point de vue de l'Assemblée nationale vis-à-vis de l'esclavage.
C'est marrant parce que finalement, là, il y a encore un parallèle avec la France. C'est-à-dire que finalement, le contexte de guerre, la pression de la guerre, fait que les assemblées révolutionnaires vont être plus enclines à donner des droits. Parce que c'est vrai que jusqu'en 1791, l'Assemblée révolutionnaire avait été même extrêmement réticente à ne donner ne serait-ce que des droits aux Noirs libres. Exactement. Et en fait, avec le déclenchement de la guerre, et notamment la guerre avec l'Angleterre, qui se déclare donc en janvier 1793, si je me souviens bien, là, évidemment, ça change complètement, quoi.
C'est ça, exactement. C'est un peu la même chose. D'ailleurs, c'est cette figure du citoyen-soldat dont on a parlé tout à l'heure qui émerge en 92, enfin après la guerre, la déclaration d'avril 92. Il y a aussi cette figure qui va apparaître après du citoyen-soldat lié à l'abolition. C'est-à-dire qu'on va donner aux esclaves des armes pour qu'ils luttent contre l'Angleterre. Et ces citoyens combattants, du coup, on va leur octroyer la liberté parce que voilà, ils ont combattu pour la France et surtout ils sont armés dans les faits. Et donc voilà, c'est le rapport de force n'est pas du tout le même. Et ce modèle du citoyen combattant, que ça soit dans la métropole ou dans les colonies, ça devient aussi le modèle de citoyenneté. C'est-à-dire qu'à partir de là, qu'il y a un citoyen combattant, il faut qu'il ait des droits politiques aussi. Alors pour juste préciser un petit peu les éléments de contexte, c'est qu'il y a donc des insurrections d'esclaves dans ce contexte de rivalité avec l'Angleterre jusqu'en 93, hein, où il y a eu à nouveau... La métropole envoie des commissaires, notamment Santonax, à Saint-Domingue, et au départ, c'était pas pour abolir l'esclavage. Ils l'ont envoyé pour résoudre la situation là-bas, mais il n'y avait pas du tout l'idée qu'il fallait abolir l'esclavage. Et c'est dans ce rapport de force que les commissaires se sont rendus compte que s'ils abolissaient pas l'esclavage, ils n'allaient pas pouvoir garder ces fameux citoyens-soldats pour la France. Et donc, c'est dans cette pression-là que les commissaires ont finalement aboli l'esclavage avant même qu'elle soit déclarée officiellement par l'Assemblée nationale, qui finalement n'a fait que ratifier, valider, au nom tout d'un coup de principe, quelque chose qui a été fait sur le terrain dans un rapport de force direct. Et qui fait aussi que, du coup, ces citoyens-soldats, non seulement ça a été l'émancipation au sens d'abolition de l'esclavage, mais aussi l'émancipation politique, dans le sens où ils ont eu des, officiellement en tout cas, parce qu'après, dans l'exercice, c'est beaucoup plus compliqué, des droits politiques.
Oui, et ça, ça a été créé finalement par le rapport de force qui a été créé par l'insurrection, puis par sa structuration en une armée révolutionnaire de campagne par Toussaint Louverture. Parce c'est que ça, juste ça. Avant, entre ces deux moments, il y a eu un moment où ça a failli, l'insurrection esclavagiste a failli tourner court. Mmh. Un épisode où, en gros, les chefs de la révolte ont quasiment vendu l'insurrection. Et finalement, à la dernière minute, notamment Toussaint Louverture a décidé de ne pas s'exprimer.
Pour revenir sur la co-construction de la race et de la classe et du genre, c'est un élément intéressant, ce moment de l'abolition de l'esclavage en 93 en tant que tel, fait par les commissaires envoyés par l'Assemblée nationale. C'est que les commissaires ont du coup promis la liberté aux anciens esclaves et ils ont promis donc les droits politiques. Mais que les femmes anciennes esclaves, évidemment, n'avaient pas accès, vu que les femmes n'avaient pas accès aux droits politiques. Et donc, la population servile, qui avant formait un tout, c'était les esclaves, devenait tout d'un coup séparée entre les hommes et les femmes. Tout d'un coup, la dimension sexuée reprenait de l'importance, puisque seuls les hommes incarnaient ce modèle du citoyen-soldat, sachant que les femmes n'avaient pas été armées. Alors que lors des insurrections d'esclaves, des femmes ont participé à la violence tout autant. Mais là, tout d'un coup, il y a eu une division des rôles, pour le coup, qui a été assumé et affirmé et créé aussi par les commissaires. Et donc du coup c'est aussi intéressant parce qu'à ce moment-là va s'affirmer dans le sillon de l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue, et ça c'est Elizabeth Colwill qui le montre très bien, toute une redéfinition justement de la bonne masculinité noire, c'est-à-dire que être un homme, être un citoyen, être un homme libre surtout, c'était avoir une femme attitrée, donc le mariage qui était valorisé comme modèle, alors qu'avant les esclaves c'était des propriétés du maître, donc il n'y avait pas l'idée que leurs enfants leur appartenaient par exemple. Là c'est la famille nucléaire qui vient définir l'homme libre, qui est chef de sa propre famille, qui dispose donc d'une autorité sur sa femme et sur ses enfants. Et donc cette redéfinition de la masculinité, de la virilité, est censée redonner de la dignité à l'ancien esclave et lui permettre d'accéder à ce rôle du citoyen et donc d'effacer la race. Donc c'est au nom de la recréation d'un rapport de genre qu'on va réussir à tenter d'effacer. Hein, les termes n'est pas de moi, hein, il y avait vraiment les commissaires utiliser cette idée qu'il fallait effacer, qu'ils appelaient le préjugé de couleur. Alors bien qu'en fait, bien sûr, ça n'annihilait pas du tout le racisme, mais il y avait quand même cette idée que la régénération, l'émancipation des hommes esclaves passait par une assimilation au modèle du citoyen soldat blanc qui existait au même moment en métropole.
Oui, c'est intéressant. Là, on voit encore comment est-ce que, finalement, la figure du citoyen est une figure historiquement patriarcale ou structurellement patriarcale, quoi.
Bah là, on voit l'importance du colon, du discours colonial qui impose là des normes de conjugalité, notamment, des normes familiales et des normes de genre qui sont attachées à des populations qui, de fait, ne les avaient pas, vu que l'esclavage rendait impossible la pensée d'une famille au sens tel qu'elle a pu être définie par la suite.
Et c'est ce qu'on va d'ailleurs retrouver en Guadeloupe et en Martinique après 1848, après l'abolition de l'esclavage.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est quelque chose encore qui marque dans les situations aujourd'hui. J'étais à un colloque en Guadeloupe sur les rapports sociaux de sexe qui était organisé par Clara Palmiste en Guadeloupe, où on voit que jusqu'à aujourd'hui, en fait, les rapports hommes-femmes sont complètement médiés par cette question de l'esclavage. Avec, la figure du père était effacée en fait pendant l'esclavage, et que du coup ça a eu toujours eu un impact sur la structure familiale même, de rôle de pilier de la mère, et avec le père qui est potentiellement absent, etc., et qui a alimenté énormément de littérature sur le sujet et de réflexion sur rapport homme-femme comme ça, qui aurait été biaisé par ces années d'esclavage et en même temps redéfini par la colonisation aussi. Donc ils étaient pris par deux modèles qu'ils ne pouvaient jamais accomplir parce qu'ils n'ont pas pensé par eux-mêmes, qui à chaque fois étaient imposés soit par la société esclavagiste, soit par la société certes non esclavagiste mais coloniale.
Oui, bien sûr, c'est là où on voit que même dans les mouvements anticoloniaux ou décoloniaux, il y a évidemment encore des éléments de colonialité qui sont incorporés inconsciemment. Je pense que Fanon en parlait. Voilà, c'est quelque chose évidemment qui est important, en tout cas au moins à conceptualiser. Après, pour revenir sur la séquence de la révolution haïtienne, donc après l'abolition de l'esclavage, il me semble qu'entre-temps, les Anglais ont pris une partie de l'île, avec l'entrée en guerre et tout ça, qui vont essayer et réussir dans un premier temps à capter la sympathie en fait des propriétaires d'esclaves, parce que pour eux, les Anglais, c'est ceux qui vont rétablir l'esclavage, et même d'une partie des Noirs libres, qui considèrent que les Noirs anciens esclaves ont pris trop d'importance. Et puis il faut dire qu'une partie des Noirs libres sont aussi propriétaires d'esclaves.
Voilà, ça, c'est ça.
Ça, c'est important. Et finalement, malgré tout, il va y avoir, en fin de compte, ça va prendre des années, mais une victoire militaire de Toussaint sur les Anglais. Et Toussaint, du coup, s'appuie sur cette lutte contre les Anglais pour se légitimer auprès de la République, parce que finalement... C'est le rapport de force qui va créer le fait qu'il va devenir petit à petit le représentant de la République à Saint-Domingue. Et en fait, le pouvoir central en France ne le voit pas du tout d'un bon œil, mais ils sont obligés, par les nécessités de la guerre et par aussi le fait qu'ils n'ont pas les capacités d'envoyer une expédition militaire pour récupérer l'île, ils sont obligés de faire comme ça. Pendant ce temps, Toussaint va, en dehors finalement de l'abolition de l'esclavage, va essayer de gérer Saint-Domingue en essayant de rétablir la propriété. C'est là où on voit aussi les limites un petit peu de l'œuvre de Toussaint, qui n'était pas révolutionnaire sur tous les plans, clairement. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette période avant d'aborder le fait que Toussaint ayant bouté à un moment les Anglais hors de Saint-Domingue, du coup, plus rien ne s'oppose au fait que la France envoie une expédition militaire pour le vaincre lui.
En fait, ce rôle d'alliance avec la République se couple avec le projet sous le directoire d'un nouveau modèle colonial qu'on appelle colonisation nouvelle. Alors, il y a un bouquin qui vient de sortir là-dessus de Marcel Dorigny et Bernard Guénaud, qui sont spécialistes d'histoire coloniale et d'esclavage, qui rappellent que justement à cette période, tout d'un coup, on essaye de repenser à une nouvelle colonisation qui soit adaptée justement aux nouveaux principes révolutionnaires. Donc à nouveau, on voit bien qu'il ne s'agissait pas du tout d'abandonner les colonies comme ça a pu se dire beaucoup, parce qu'il y a eu cette fameuse phrase qui avait été attribuée à Robespierre, périssent les colonies plutôt qu'un principe, qui a longtemps fait croire que du coup il y a eu un processus décolonial pendant la Révolution, alors qu'au contraire il y a eu une nouvelle dynamique coloniale qui se met en place, mais différente que celle de l'ancien régime, tout simplement, pensée par le modèle républicain du directoire. Donc ça se fait en ce contexte-là, et donc tout simple, le directoire essaye de l'amener aussi comme une forme d'alliance avec les élites, qui va préfigurer un peu cette idée que la France, dans son modèle civilisateur, on retrouve déjà ces expressions qui commencent à apparaître, va s'allier avec des élites des colonies. Et donc, notamment, là, ça va être l'idée qu'ils vont proposer à leurs enfants d'être éduqués en France, notamment dans l'Institut National des Colonies, qui accueille comme ça des figures des élites de Saint-Domingue.
Les enfants de Toussaint.
Les enfants de Toussaint, notamment. Avec cette idée qu'au petit à petit, on va agréger, en fait, on va reconstruire un fil, un lien avec la colonie par ce prisme-là. Du coup, il y a tout un rôle aussi donc des élites qui envoient leurs enfants être éduqués en métropole. Et par ailleurs, ça, ce que j'avais un petit peu travaillé sur aussi, la création d'écoles pour anciens esclaves à Saint-Domingue, qui avait pour but, là aussi c'est assez explicite, leur transmettre les valeurs de la civilisation. Donc c'est là où on voit à nouveau que le racisme s'exprime, un racisme civilisationnel s'exprime, mais qui se veut pour assimiler en fait Saint-Domingue à la France.
Ouais, au nom du progrès, quoi.
Voilà, au nom du progrès. Donc c'est dans ce contexte-là que Toussaint Louverture, du coup, va être une figure assez aussi critiquée, par ailleurs, qui incarne aussi à la fois une figure glorieuse de Saint-Domingue et à la fois, potentiellement, cette figure qui peut annoncer ces nouveaux modèles de colonisation.
Mais à un moment, donc cette espèce d'idée du directoire, d'une espèce de nouvelle colonisation qui se présente quasiment un peu comme après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu cette idée un peu de l'Union française, donc un modèle assez assimilationniste, où on donne des droits... où il y aurait une relation plus équitable. Elle va quand même changer avec l'arrivée au pouvoir de Bonaparte en 1799 en France. D'ailleurs, là-dessus, T.L.R. James a un chapitre très évocateur qui s'appelle « La bourgeoisie prépare le rétablissement de l'esclavage ». Est-ce qu'on pourrait revenir du coup là-dessus jusqu'à donc l'expédition effective qui a envoyé pour tenter de rétablir l'esclavage?
Alors oui, c'est effectivement, on parle vraiment du tournant consulaire et particulièrement bien sûr du tournant de 1802 qui est l'année du rétablissement de l'esclavage. Donc en gros, la première abolition de l'esclavage a donc été depuis février 1794, si on prend le texte officiel, jusqu'à 1802. Certains ont souligné les liens que pouvait avoir Joséphine, qui venait de Martinique, avec le milieu colonial, enfin des grands propriétaires de Martinique, ce qui a sans doute participé à jouer un rôle. Hein. Mais bon, quand même, ça n'explique pas tout. Mais Bonaparte va progressivement donc devenir un espoir pour le lobby colonial. Et en fait, ça va être, je dirais, il faut aussi le remettre dans un contexte plus large, qui est ce moment consulaire qui est un peu une mise au pas. Déjà que le directoire est une période quand même d'ordre, on va dire que là, il va avoir quand même tout un ensemble de discours visant à restaurer chacun à sa place, si vous voulez. Et du coup, il y a à la fois l'idée que c'est un moment où on va préparer le code civil. Dans ce code civil, Portalis va définir la famille à nouveau comme une entité hiérarchisée, où du coup la femme doit obéissance à son mari. Donc là, il y a une réaffirmation de l'inégalité de genre très forte par ce code civil qui va être mis en place officiellement en 1804, avec le droit notamment des époux de frapper leur femme. Hein. On est vraiment dans une légalisation de l'autorité maritale. Et d'autre part aussi, une mise au pas de toutes les classes populaires. Les populations ouvrières sont encadrées, beaucoup plus réprimées et surveillées. Et d'autre part, donc, cette idée qu'il faut aussi rétablir une hiérarchie raciale. Donc on veut rétablir l'hiérarchie de sexe, de classe et de race, avec cette idée que c'est sur l'idée de hiérarchie que se fonde vraiment un ordre post-révolutionnaire. Donc c'est pour ça que là, vraiment, tous les moments où il pouvait avoir encore quelques petits éléments de déstabilisation sous le directoire vont s'éteindre hein, dans ce moment consulaire. Et donc Bonaparte, je pense, a aussi ce rapport aux colonies, ce rapport de mise au pas dans un contexte plus général de réaffirmation des inégalités en fait structurantes d'une société. Donc je pense que c'est un élément qui a joué dans sa décision et qui va amener à des expéditions effectivement qui sont d'une violence. Enfin, c'est vraiment des années noires dans l'histoire de la France et l'histoire des colonies. On a vraiment des expéditions punitives et une violence extrême. Pour rétablir l'esclavage aussi en Guadeloupe, hein, où il y a encore il y a eu des résistances très fortes, hein, bien sûr, et qui ont été réprimées dans le sang, et donc aussi cette volonté à Saint-Domingue de rétablir l'esclavage en 1802, qui à Saint-Domingue va entraîner par réaction à cette tentative de rétablissement de l'esclavage, l'indépendance de 1804.
Oui, et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que le général envoyé par Bonaparte, donc qui est Leclerc,
oui,
va réussir à obtenir finalement la capture de Toussaint en s'appuyant sur d'autres généraux noirs. Et l'un d'entre eux, notamment Dessalines, va le trahir d'une certaine manière et va...
prendre sa place.
Il va prendre la place de Toussaint, oui, et va lui réussir à obtenir l'indépendance d'Haïti en se faisant d'ailleurs ensuite proclamer empereur. Bon, enfin...
Voilà, après, ça ne peut pas dire non plus que ça a été la démocratie à Haïti, bien sûr.
C'est ça.
Mais au final, c'est la première victoire, la première indépendance et la première fondation d'une république noire atlantique.
Oui, et finalement, on incite vraiment nos auditeurs et nos auditrices à lire l'ouvrage qui est passionnant, qui se lit très bien et qui décentre l'histoire de la Révolution française. C'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, il fait toujours un peu des références à ce qui se passe en France, mais au prisme... de Saint-Domingue, de Haïti, et c'est vraiment très intéressant parce que la Révolution française, d'habitude, c'est très eurocentrique, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment novateur dans ce livre à l'époque, quoi.
Complètement. D'ailleurs, on peut dire que on peut faire maintenant des approches globales de la réaction française, faites par des historiens du global, qui visent justement à décentrer les approches et s'inspirent de S.L.R. James pour relire des événements à l'aune des sources de Saint-Domingue, par exemple. Et ça explique aussi, notamment, on a beaucoup insisté sur les transferts culturels de métropole jusqu'aux colonies, c'est-à-dire la revendication de droits, de vocabulaire politique issu de la métropole. Mais maintenant aussi, on montrait comment des discours, des pratiques politiques de Saint-Domingue ont aussi eu leur autonomie vis-à-vis du projet politique de la Révolution française.
Oui, et ça renvoie au dernier point que je voulais faire de cette émission, dont tu parles pas mal dans l'universalisme en conflit, que j'ai trouvé très intéressante. C'est la manière dont tu montres que l'universalisme est pratiquement, pendant la Révolution française, un universalisme qui a principalement été masculin, blanc et bourgeois, en tout cas de par les acteurs qui l'ont porté, et de par les acteurs qui ont bénéficié de ce, entre guillemets, universalisme.
Oui, c'est ça, par les privilèges que ça sécrétait, oui.
C'est ça, une espèce d'universalisme abstrait. Et en même temps, tu opposes à cet universalisme abstrait, bourgeois, patriarcal et raciste, un universalisme concret, contradictoire, pluriel aussi, ça c'est, je trouve très intéressant, hybride et monstre. Est-ce que tu peux revenir très rapidement sur cette idée que je trouve très intéressante pour finir cette émission ?
Bien, l'idée, c'est que c'est vrai qu'il y a une opposition qu'on retrouve encore des fois, parfois, dans certaines mouvances politiques d'aujourd'hui, où l'universalisme, parce qu'il a servi avant tout l'intérêt, effectivement, des blancs, des hommes, etc., des bourgeois, est rejeté en bloc, comme, du coup, la notion universaliste serait une notion de fait caduque. Or, ce qui me semble intéressant, c'est quand on revient dans le contexte d'émergence de cette notion, au lieu de voir une nouvelle fois qu'un aspect de la chose montrait qu'il y a eu des conflits autour de cette notion et qu'il y a eu d'autres visions de l'universalisme qui s'est émis au même moment et qui a alimenté énormément de luttes, en fait. Et donc, cet universalisme qui a alimenté des luttes, c'est un universalisme, effectivement, comme l'on parlait un petit peu avec Mary Wollstonecraft, qui a, je pense, conceptualisé un petit peu cette notion d'universalisme concret. Cette idée qu'il n'y a pas seulement à déclarer des droits abstraits, il faut rendre concrets ces droits. Et donc, si c'est rendre concrets ces droits par les luttes, ça implique du coup la conflictualité. Et dans cette conflictualité, il y a aussi l'idée que l'universalisme n'est jamais achevé, qu'il est toujours, et c'est là, et je me réfère à Balibar justement, qui est le philosophe Balibar qui a théorisé cette idée-là aussi, hein, que l'universalisme par essence c'est un mouvement. Et c'est un mouvement qui est fait de conflits et de contradictions, et qui est, tant qu'il est en mouvement, je dirais qu'il interagit. Et les luttes aujourd'hui des racisés, en France par exemple, participent complètement à cette mise en mouvement de l'universalisme qui le rend vivant et qui fait qu'il a une portée révolutionnaire encore aujourd'hui. Et après, c'est vrai, l'expression hybride et monstre, c'est aussi pour rappeler que au lieu de voir un universalisme qui implique que chacun justement soit à sa place et qu'il y a une affirmation d'identité à chaque fois, une identité particulière, il faut aussi rappeler que parmi les militants de l'universalisme congrès, ils insistaient énormément sur l'idée d'hybridation, justement de métissage, que ça soit hybridation de sexe, comme on l'a vu avec Mary Wollstonecraft qui voulait viriliser les filles, que ça soit le métissage, comme on l'a vu aussi avec Saint-Domingue, hein, cette idée que l'universalisme passe par de l'impureté, en fait, politique aussi. Et cette impureté, loin d'être négative, elle est productrice de sens et de mise en mouvement.
Finalement, même des mouvements qui se pensent comme particularistes, à partir du moment où ils visent une égalité concrète, font référence quand même à l'idée que du coup...
C'est ça.
Et du coup, c'est un moment, tu cites dans ton article Eleni Varikas, là en l'occurrence Eleni Varikas parle des droits de l'homme, tous les hommes sont nés libres et égaux, que finalement, il faut, comme l'universalisme, il ne faut pas le voir comme une réalité, parce qu'aujourd'hui, l'universalisme, effectivement, est une mystification qui cache les divisions inégalitaires de race, de classe et de genre, c'est mais ça. Comme un projet politique... Et pas nécessairement unidimensionnel, mais qui peut être pluriel. C'est pour ça que, par exemple, les apatistes parlent de pluriversalisme ou de pluniversalisme.
Tout à fait. C'est exactement cette idée-là. C'était je pense là-dessus que toutes les luttes pour les droits et pour aussi une société anticapitaliste, comme au Chiapas, par exemple, on va avoir aussi tout un travail de cette notion d'universalisme qui est clé pour justement faire que l'universalisme ne soit pas l'idéologie. Qui soit plus une idéologie, qui soit un frein à l'égalité, mais au contraire, quelque chose qui vienne transformer véritablement les rapports sociaux.
Et oui, du coup, là encore une fois, pour conclure, l'universalisme donc, qui est classiquement associé à la Révolution française en termes de genèse historique, bien sûr que l'universalisme bourgeois, patriarcal et raciste naît au moment de la Révolution française, mais finalement son antagoniste naît aussi au moment de la Révolution française, donc un universalisme, disons, de classe, donc celui des sans-culottes parisiens, un universalisme de genre, qui est celui de toutes ces féministes européennes dont tu parles dans ton article, et aussi un universalisme de race dont parle C.L.R. James, et qui est un peu le modèle de la révolution haïtienne, basé sur l'idée que l'égalité ne doit pas être simplement celle pour les hommes blancs, mais aussi pour tous les racisés. Même si, évidemment, par exemple, Toussaint Louverture n'incluait pas dans son universalisme les femmes. Et c'est pour ça que l'approche intersectionnelle, du féminisme intersectionnel, par exemple celui du black féminisme en grande partie, elle permet d'aspirer cet universalisme qui serait réalisé du coup par l'abolition en fait, des divisions hiérarchiques de classe, de genre et de race.
C'est ça, et il ne s'agit pas d'idéaliser effectivement les acteurs de l'époque pour dire qu'ils avaient réalisé ces perspectives déjà, mais c'est chercher un peu, pour paraphraser Guérin, c'est la révolution et son double, l'universalisme et son double. C'est peut-être ça aussi qu'il faut aller chercher dans le passé pour agir aujourd'hui.
Bon, bah, c'était une très bonne conclusion. Donc, on remercie donc Caroline Fayolle de nous avoir accompagnés pour cette très longue émission sur la Révolution française, mais en même temps, c'était un événement quand même un peu massif et on a voulu aborder quand même trois aspects et pas simplement rester à de l'histoire politique comme trop souvent. Et on espère que nos auditeurs et auditrices auront apprécié cette émission, l'auront trouvée intéressante et aussi éclairante pour les enjeux politiques contemporains. Voilà, merci.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Non, la race n'existe pas, si la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.